Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 91, Daf Tzadik Aleph. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara demande, Pshita, il est évident que cette femme n'aurait plus le droit de se marier avec un Kohen. En fait, il est vrai que nous avons vu plus haut Daf Nunvav Amud Bet, une discussion à savoir si une femme qui a été violée par quelqu'un qui lui est interdit, est-ce qu'elle est considérée comme étant zona et interdite au Kohen ou non? Donc là, dans notre cas, aussi nous pourrons le considérer comme un cas de force majeure, puisqu'elle pensait que son mari était mort. Nous devrions dire aussi, selon l'avis qui dit que dans le cas d'un viol, cette femme n'est pas considérée comme zona, n'est pas interdite au Kohen. Là aussi, elle ne devrait pas être interdite au Kohen. Mais puisque nous voyons que les Chachamim l'ont même interdite à son mari, donc en fait, les Chachamim considèrent ici cette femme comme ayant une relation volontairement avec un étranger. Par conséquent, il est évident aussi qu'elle devrait être interdite au Kohen. La Gemara répond, « Bat levi mina ma'aser itztarich aleh. » La Mishnah, en fait, a voulu nous enseigner le chidouche. Dans le cas où, s'il s'agissait d'une fille de Lévi, elle n'aurait plus le droit de consommer le ma'aser. La Gemara demande, « Bat levi mina ma'aser mimif sela biznout. » Est-ce que la fille du Lévi n'aura plus le droit de consommer le maaser s'il a une relation avec quelqu'un qui lui est interdit? Ben, Tania, voici qu'il a été enseigné dans une braïta, Leviya Shenishbit, une fille de Lévi qui aurait été prise en captivité. On peut donc estimer qu'elle a eu une relation avec celui ou ceux qui l'ont prise en captivité. On peut estimer aussi que c'est des gens qui lui sont interdits. O Shenivala Bilaznut, ou bien s'il a une relation avec quelqu'un qui lui est interdit. Notnim la maaser veochelet. On pourra quand même continuer à lui donner le maaser, elle pourra le consommer. Nous voyons donc que même à la suite d'une relation interdite, la fille de Lévi peut continuer à consommer le maaser. L'agma répond, Amarav Shechet Knasa. Il est vrai que la fille de Lévi pourra continuer à consommer le maaser si elle a une relation interdite, mais là les Chachamim l'ont pénalisé à ce sujet. L'agma reprend le passage de la Mishnah qui dit, Bat Kohen Minatruma. S'il s'agissait de la fille d'un Kohen, elle aura aussi l'interdiction de consommer la Touma. En fait, on pourrait se poser ici comme question, quel est le chidouche de la Mishnah, puisque déjà, nous avons vu plus haut que même, à propos du Maaser, les Chachamim ont pénalisé la fille du Lévi, à plus forte raison, on pénalisera la fille du Kohen à propos de la Touma. Et cela, comme l'explique la Ochener, bien qu'on aurait pu dire qu'il s'agit ici d'un cas de force majeure, et nous avons vu plus haut, d'Afnou Lav Moubet, une discussion à ce sujet, comme nous l'avons expliqué plus haut. La Gemara explique, Afilu bitrumav de Rabbanan. Le chidouche de la Mishnah est que même, elle n'aura même plus le droit de consommer une truma de Rabbanan, c'est-à-dire une truma prélevée sur des fruits autres que les céréales, l'huile et le vin. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Ven yorshav shel ze, yorshav shel ze, yorshim ktubata. Ni les héritiers de l'un, ni les héritiers de l'autre hériteront de la ktuva. La Gemara demande, ktuva maya vidita. De quel ktuva s'agit-il, puisque nous avons enseigné dans la Mishnah que les engagements de la ktuva ont été annulés? La Gemara répond, Amar Rav Papa ktuvat benin dichrin. Il s'agit ici de l'engagement spécial de la ktuva, s'appelant ktuvat benin dichrin. Cet engagement s'applique dans le cas où le mari s'est marié deux ou plusieurs fois avec des différentes femmes à la suite de la mort de la première femme. Elle n'a donc pas encaissé sa ktuva. Alors quand lui vient à mourir et l'héritage sera partagé entre les différents enfants, les enfants des différentes femmes hériteront l'aktuva de la femme, ce qui comprend l'aktuva elle-même et la dot qu'elle a donnée à son mari. Cet engagement vise à préserver le patrimoine de la famille de la femme pour encourager le père à donner une grosse dot à sa fille. En tout cas, donc, ce que Rav Papa répond ici, c'est que les enfants des différents maris, donc du premier ou du second mari, n'auront pas cette ktuva quand ils viennent à mourir et l'héritage sera partagé. La Gemara demande, Pshita, c'est évident puisque l'engagement de la ktuva a été annulé. La Gemara répond, Mai, Maou de Tema, Ledida de Avda Isura, Kansua Rabanan. On aurait pu dire que peut-être c'est juste pour elle qui a transgressé l'interdiction, les Chachamim l'ont pénalisé et elle ne recevra pas la ktuva, les Ara, Lo Kansua Rabanan. Par contre, pour sa descendance, les Chachamim ne les ont pas pénalisés. Kamashmanan, c'est pourquoi la Mishnah a besoin d'enseigner que même les enfants ont été pénalisés à la suite de cette histoire. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit Achib Shelze, Achib Shelze, Cholzim, Vilobiabnim. Le frère de l'un et le frère de l'autre ne feront que la Khalitsa, ils ne pourront pas faire le Yiboum. Alors l'Agma explique Achib Shel Rishon, Choletz, Midoraita. Le frère du premier mari devra faire la Khalitsa Minatora, parce qu'en fait elle est concernée par le Yiboum, par le frère du premier mari, Velomiabem, Miderabanan. Par contre, les Chachamim ont interdit de faire le Yiboum à cause du fait qu'elle s'est mariée alors que son mari est encore vivant. Achiv shel sheni cholet miderabanan, le frère du second devra faire une chalitza miderabanan, parce qu'en fait, comme nous avons déjà expliqué dans la Mishnah, ce deuxième mariage n'a pas pris effet, mais c'est juste comme ce que la Gemara a expliqué, que les gens croiront que c'est à la suite d'un divorce qu'elle s'était mariée et que le mariage était un bon mariage, c'est pourquoi donc elle devra faire aussi la chalitza. Velomi abem, lomi doraita, velomi derabanan, et il ne fera pas le Yiboum, le frère du second, ni Minatora, ni Midrabanan. C'est-à-dire, en d'autres termes, les Chachamim ont interdit le Yiboum ici, au frère du second, au même titre qu'elle est interdite aussi au second, voire le Aruch Laner et le Maharsha. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit Rabbi Yossi Omer, Ktuvatal, Nirsebala, Arishon, etc. Rabbi Yossi dit que l'engagement de la Ktuva reposera sur les biens du premier mari. En d'autres termes, Rabbi aussi discute avec le premier auteur de la Mishnah. Elle dit que du premier mari, elle aura quand même la Ktuva. La Mishnah continue et dit que Rabbi Elazar discute aussi avec le premier auteur de la Mishnah. Elle dit que les engagements secondaires de la Ktuva, comme les trouvailles de la femme et ce qu'elle gagne, reviendront au mari. Rabbi Shimon aussi discute avec le premier auteur de la Mishnah et dit que la relation, c'est-à-dire le Yiboum ou la Khalitsa du frère ou d'un des frères du premier mari exempteront sa rivale. En d'autres termes, les frères du premier pourront faire la Khalitsa ou le Yiboum. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que ces auteurs, c'est-à-dire Rabbi Yossi, Rabbi Shimon et Rabbi Lazar, pensent entre eux. Alors la Gemara explique Amar Avuna, Batrae, Modu le Kamaï. Les derniers sont d'accord avec les premiers. C'est-à-dire, Rabbi Shimon sera d'accord avec Rabbi Lazar, Rabbi Yossi, et Rabbi Lazar sera d'accord avec Rabbi Yossi. Kamae, l'homodou le batrae. Par contre, les premiers, c'est-à-dire Rabbi Yossi par exemple, n'est pas d'accord avec les derniers. Rabbi Yossi donc n'est pas d'accord ni avec Rabbi Lazar ni avec Rabbi Shimon, et Rabbi Lazar n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Alors l'Agmara explique, Rabbi Shimon modèle Rabbi Lazar, Rabbi Shimon qui dit que les frères du premier pourront même faire le Yiboum, est d'accord avec Rabbi Lazar qui dit que les engagements secondaires de la Ktuva existent pour le premier mari. Et cela, de ma biadei karisura lokanis. Si déjà la relation qui est l'interdiction essentielle qu'elle a transgressée, puisque finalement le fait que l'interdiction qu'elle a transgressée quand elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, c'est une relation interdite. Alors là aussi, on aurait pu beaucoup plus comprendre qu'on pénalise la femme à propos de relations et on interdirait le hiboum avec les frères du premier mari. Alors si déjà, selon l'avis de Rabbi Shimon, on ne le fait pas, de kol sheken metiata ou maseadea de mamonahu, à plus forte raison qu'on ne la pénalisera pas, qu'on ne pénalisera pas le mari, à propos de ce qu'elle trouve et de ce qu'elle gagne, puisque finalement il ne s'agit que d'argent, et ce n'est pas à propos d'argent qu'elle a transgressé une interdiction. D'ailleurs aussi, pour ce que Rabbi Lazar ajoute, qui est l'annulation des vœux, c'est aussi, là aussi, selon l'avis de Rabbi Lazar, et comme ce que nous venons de dire aussi, selon l'avis de Rabbi Shimon, que c'est le premier mari qui pourra annuler ses vœux. Et cela parce que ce n'est pas l'interdiction qu'elle a transgressée. Par contre, Rabbi Lazar, qui dit que les engagements secondaires de la Ktuva existent pour le premier mari, le modèle de Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord avec l'avis de Rabbi Shimon qui dit que les frères du premier pourront faire le hiboum. Pourquoi? Quand il s'agit de sa trouvaille et de ce qu'elle gagne, qu'il ne s'agit que d'argent, en tout cas ce n'est pas les interdictions qu'elle a transgressées, là, il n'y a pas de pénalité. Par contre, aval bia de isurahu, par contre, quand il s'agit de relations où c'est l'essentiel de l'interdiction qu'elle a transgressée, kanis, là, il la pénalisera. Et les frères du premier ne pourront pas faire le hiboum selon l'avis de Rabbi Lazar. Vetarvayhu modulel Rabbi Yossi. Et tous les deux seront d'accord avec Rabbi Yossi, qui dit que l'engagement essentiel de l'Aktuva repose sur le premier mari. Pourquoi? Parce que Hane diatva tute lokanis. Si déjà les choses qui concernent le fait qu'elle reste encore avec le premier mari, quand même, il ne l'a pas pénalisée. C'est-à-dire, selon l'avis de Rabbi Shimon, le fait qu'elle puisse faire le hiboum, qui est une conjugation du mariage, ou bien ce que Rabbi Lazare a enseigné, que les engagements secondaires, par exemple, la trouvaille et ce qu'elle gagne, reviennent au mari, c'est aussi ce qui concerne la continuation du mariage, quand même, il ne la pénalise pas. De Kol Sheken Ketuva, à plus forte raison, ils ne la pénaliseront pas à propos de l'engagement de la Ketuva, de l'Mishkal ou Mifak Kai. Parce que finalement, c'est le paiement de la Ketuva se fait quand elle quitte son mari, quand elle divorce. Là, il y a plus de. C'est plus logique de lui dire qu'au contraire, on l'encourage à quitter son mari en recevant la Ketuva. Fait Rabbi aussi, l'homme modélé. Par contre, Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Rabbi Lazare et Rabbi aussi, et Rabbi Shimon. Parce que, Ketuva del Mishkal ou Mifak ou de l'Okanis, quand il s'agit de l'engagement à la Ketuva, où finalement, c'est le. Qui est destiné à être payé et qu'elle sorte, alors là, nous comprenons qu'il ne la pénalise pas, puisque finalement, nous voulons l'encourager à quitter son mari. Aval Hane, Deatva Touté. Par contre, ce qui concerne le fait qu'elle continue à rester. Vivre avec son premier mari, là, il la pénalisera. C'est-à-dire, pour sa trouvaille ou ce qu'elle gagne, ou bien le fait que le frère du premier puisse faire le hiboum, il y aura une pénalisation. Rabbi Yochanan Amar, par contre, Rabbi Yochanan discute avec Rav Huna et dit la chose suivante. Kamae module batrae, les premiers sont d'accord avec les derniers. C'est-à-dire, Rabbi aussi qui disait que le premier mari a toujours l'engagement de la Ketuva, il est d'accord avec Rabbi Lazare, qui dit que les engagements de la secondaire de la Ketuva tiennent toujours et sa trouvaille et ce qu'elle gagne revient au mari. Et aussi, il sera d'accord avec Rabbi Shimon, qui dit que les frères du premier pourront faire le hiboum. Rabbi Lazare, qui dit que les engagements secondaires de la Ketuva tiennent toujours, sera d'accord avec Rabbi Shimon, qui dit que les frères du second pourront faire le hiboum. Par contre, Batraï, l'homme au le Kamaï. Les derniers ne sont pas d'accord avec les premiers. C'est-à-dire Rabbi Shimon qui dit que les frères du premier pourront faire le hiboum. Lui n'est pas d'accord avec Rabbi Lazare qui dit que les engagements secondaires de la Ketuva tiennent toujours. Et ni avec Rabbi Yossi qui dit que l'engagement essentiel de la Ketuva repose sur le premier mari. Rabbi Lazare qui dit que les engagements secondaires de la Ketuva tiennent toujours ne sera pas d'accord avec Rabbi Yossi qui dit que l'engagement essentiel de la Ketuva tient toujours. Alors la Gemara explique. Rabbi Yossi modèle le Rabbi Lazare. Rabbi Yossi est d'accord avec Rabbi Lazare parce qu'il dit Ketuva de Midide Ledida. Si déjà, à propos de l'engagement de la Ketuva, où finalement c'est le mari qui doit payer à la femme, l'okanis, il ne l'a pas pénalisé, le kol sheken metziata umaseadea de Midida Ledida, à plus forte raison, il ne la pénalisera pas à propos de ce qu'elle trouve et de ce qu'elle gagne, parce que finalement c'est des choses qui reviennent de la femme au mari. En d'autres termes, puisque le mari n'a rien fait, il n'y a pas de raison de ne pénaliser. Rabbi Lazare, l'homme modélé. Par contre, Rabbi Lazare n'est pas d'accord avec Rabbi aussi. Parce qu'on dit la chose suivante, Metiata Omaseadea ou de Medida Ledide, Lokanis, ce qui concerne ce qu'elle trouve ou ce qu'elle gagne, finalement ce sont des choses qui reviennent de la femme au mari, là il ne pénalisera pas le mari. Aval Ketuva de Medide Ledida, par contre l'engagement essentiel de la Ketuva ou c'est ce qui revient du mari à la femme, Kanis, là il sera d'accord qu'on pénalisera la femme à ce sujet. Betarvayu Module le Rabbi Shimon, tous les deux seront d'accord avec Rabbi Shimon, et tous les deux sont d'accord donc. Que les frères du premier mari pourront faire le hiboum. Pourquoi? Uma hane de mechayim lo kanse. Si déjà les premières choses, c'est-à-dire l'engagement essentiel et l'engagement secondaire de la Ketuva, qui sont finalement du vivant du mari, ils ne la pénalisent pas. Donc finalement, ce sont des choses qui existent quand elle est encore mariée avec son premier mari. Bia de la harmita lo kol chiken. La relation, donc le hiboum des frères du premier mari, qui finalement se passe après la mort du mari, a plus forte raison qu'on ne la pénalisera pas à ce sujet. Ve Rabbi Shimon, l'homme de Lehu. Par contre, Rabbi Shimon ne sera pas d'accord ni avec Rabbi Lazare, ni avec Rabbi Yossi. Parce qu'en fait, nous dirons, Bi'a hu de la harmita lokanis, la relation, donc le hiboum, qui se passe après la mort du premier mari, là, il n'y a plus de raison de la pénaliser. Aval hane de mechayim kanis. Par contre, ces choses, c'est-à-dire l'engagement essentiel de la Ketuva et les engagements secondaires de la Ketuva, qui se passent du vivant du mari, là, il y a une raison de les pénaliser. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit, Nisset, Shelo Birshut, etc. Si elle s'est mariée sans la permission du tribunal, mais en suivant le témoignage de deux témoins, elle pourra retourner à son, si son mari revient, elle pourra retourner à son mari parce que c'est un cas de force majeure. Cette partie de la Mishnah est en fait la suite de l'enseignement de Rabbi Shimon. Amar Rav Huna, Amar Rav, Hachi il Chetal, Alakha est ainsi, c'est-à-dire dans le cas où une femme s'est mariée avec le témoignage de deux témoins, elle pourra retourner à son mari. Amar le Rav Nachman, Rav Nachman a dit à Rav Huna, Ganva Gnuve Lamalach, pourquoi est-ce que tu fais semblant de voler? Isvir Alach, qui Rabbi Shimon, si tu penses comme Rabbi Shimon, Emma Alakha qui Rabbi Shimon, tu n'as qu'à dire l'Alakha est comme Rabbi Shimon, pourquoi est-ce que tu dis que l'Alakha est comme cette partie de la Mishnah en cachant qu'en fait il s'agit de la vie de Rabbi Shimon? Deshmater, qui Rabbi Shimon Kazla, puisque finalement, ce que tu nous enseignes, c'est comme l'opinion de Rabbi Shimon. Vechit Emma, si tu veux me répondre, Yamina Alakha qui Rabbi Shimon, si j'avais dit que l'Alakha est comme Rabbi Shimon, Mashma Afilube Kamaita, on aurait compris que l'Alakha est comme Rabbi Shimon, même dans la première partie de son enseignement, c'est-à-dire que les frères du premier mari peuvent faire le hiboum. Emma Alakha qui Rabbi Shimon, Bacharona. Or, tu n'as qu'à dire l'Alakha est comme Rabbi Shimon dans la dernière partie de son enseignement. Et nous comprendrons donc que c'est juste dans cette partie où il dit qu'elle peut retourner vivre avec son mari si elle s'était mariée avec le témoignage de deux témoins, que l'Alakha sera comme Rabbi Shimon. Kashia. La Gemara a dit, effectivement, c'est une bonne question. La Gemara n'a pas trouvé de réponse sur le moment. Amar Rav Sheshet. Rav Sheshet a dit à ce sujet. Amina Kinaim Veshachiv Rav Amra Lehashmata. Je pense, je dis, que quand Rav se couchait et dormait, il a dit cet enseignement. Parce que, Halakha Miklal de Pligé, quand il dit l'Halakha est comme cette partie de la Mishnah, c'est-à-dire qu'il y a une discussion à ce sujet, que les Chachamim ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Mi'ana Sansa, c'est un cas de force majeure, puisque finalement, n'importe qui a le droit de faire confiance au témoignage de deux témoins. Ve'od. Et en plus, Tanya, il a été enseigné dans une braïta, Kol Arayot Sheba Torah. Toutes les femmes, toutes les incestes interdites par la Torah, si elles ont reçu des kiddushim de la part de celui qui est interdit à elles, elles n'auront pas besoin d'acte de divorce pour se remarier avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, tout le monde sait que le mariage avec une personne dont la relation est sanctionnée par la peine de karet ne prend pas effet. Chutz mi eshetish sheniset al pi bedim, à part la femme mariée qui s'est mariée à la suite d'une décision du tribunal qui le fait à la suite d'un témoignage d'un seul témoin. Celle-là aura besoin d'un acte de divorce, comme nous l'avons vu plus haut, pour ne pas que les gens pensent qu'en fait elle s'était mariée à la suite d'un divorce. Nous pouvons donc déduire de là, Alpi Beddin Hudbaya Gita, c'est juste si elle s'est mariée à la suite d'une décision du tribunal qu'elle aura besoin d'un acte de divorce pour se remarier, Alpi Edim Lobaya Gita. Par contre, si elle s'était mariée à la suite du témoignage de deux témoins, elle n'avait donc pas besoin de décision du tribunal, elle n'aura pas besoin d'acte de divorce. Nous voyons donc que nous considérons cette femme qui s'est mariée à la suite d'un témoignage de deux témoins comme un cas de force majeure. Et donc elle pourrait aussi retourner à vivre avec son premier mari. Alors la Gemara demande, Mané, quel est l'auteur de cette braïta? Il est Rabbi Shimon. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Shimon qui est l'auteur de cette braïta, Alpi Beddin Mi Baya Gita, si elle s'était mariée à la suite d'une décision du tribunal, est-ce qu'elle a besoin d'un acte de divorce? Vatania, voici que nous voyons dans une braïta, Rabbi Shimon Omer dit, Asu Beddin Beroatan, on a considéré la décision du tribunal dans ce cas, c'est-à-dire quand le tribunal a permis à la femme de se marier à la suite du témoignage d'un témoin, Kezadon Ish Beisha, comme le cas où un homme aurait eu une relation avec une femme mariée volontairement. Alpi Edim, et nous considérons cette femme qui s'est mariée à la suite du témoignage de deux témoins, donc sans décision du tribunal, Keshgagat Ishbeisha, comme un homme qui aurait une relation avec une femme mariée, involontairement, c'est-à-dire il ne savait pas qu'elle était mariée, ou bien il pensait que c'était permis. Et en fait, dans ce cas, soit si une femme a une relation avec un homme, soit involontairement, Idvidi, Lobayaget, tous les deux n'ont pas besoin d'acte de divorce pour se marier avec quelqu'un d'autre. Et la lave, n'est-ce pas donc, Rabbanan hi, l'auteur de cette première braïta, sont les Rabbanan. Et c'est pourquoi donc ils font une différence entre celle qui s'est mariée à la suite d'un témoignage d'un témoin et celle qui s'est mariée à la suite du témoignage de deux témoins. Nous voyons donc que les Chachamim sont aussi d'accord que celle qui s'est mariée à la suite d'un témoignage de deux témoins, elle sera permise à son premier mari. La Gemara répond, Le Olam Rabbi Shimon hi. Toujours pourrais-je dire que l'auteur de cette première braïta est aussi Rabbi Shimon. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec cela et disent que même celle qui s'est mariée à la suite du témoignage de deux témoins sera interdite à son premier mari au même titre que celle qui s'est mariée à la suite d'un témoignage d'un témoin. Le problème était que de la deuxième braïta, nous avons dit que selon la vie de Rabbi Shimon, dans les deux cas, il n'aurait pas besoin d'acte de divorce pour se remarier. Alors là-dessus, la Gemara propose, Vetarit Sachis, c'est ainsi qu'on interprétera cette deuxième braïta. Rabbi Shimon, Omer, dit, Asu Beddin Beoratan. On considère la décision du tribunal quand ils ont permis à cette femme de se marier à la suite du témoignage d'un témoin, Kekavanat Ishbeisha, comme un homme qui aurait eu une relation intentionnelle avec une femme dans le but de se marier avec elle. Il avait donc l'intention que cette relation serait aussi un acte de mariage, ou Bayaget, par conséquent, elle aura besoin d'un acte de divorce pour se remarier. Alors aussi, cette femme qui s'est mariée à la suite du témoignage d'un témoin aura besoin d'un acte de divorce pour se remarier. Alpiedim, nous considérons cette femme qui s'est mariée à la suite du témoignage de deux témoins, que Shelob Kavanat Ishbeisha, comme un homme qui aurait une relation avec une femme, non pas dans le but de se marier avec elle. Velo Be'aget, elle a donc pas besoin d'acte de divorce pour se marier. En fait, donc, selon cette interprétation, la deuxième braïta concorde avec la première braïta, et on pourra dire que l'auteur de cette première braïta sera aussi Rabbi Shimon. Rabashi propose une autre interprétation de cette deuxième braïta. L'Inyan Isura Katane. Dans cette braïta, il s'agit de savoir si cette femme sera interdite à son mari, son premier mari ou non. D'Arikamart, ainsi que Rabbi Shimon a voulu dire. Asu Beddin Beroatan, on considère la décision du tribunal quand ils ont permis à cette femme de se marier à la suite du témoignage d'un témoin, Kezadon Ishbeisha, comme un homme qui aurait une relation avec une femme mariée volontairement, ou Mitzer al-Bala, par conséquent, elle sera interdite à son mari. Al-Piedim, on considère cette femme qui s'est mariée à la suite du témoignage de deux témoins, Keshgagat Ishbeisha, comme un homme qui aurait une relation avec une femme mariée involontairement, il ne savait pas que c'était interdit ou il ne savait pas qu'il s'agissait d'une femme mariée, Velo Mitzer al-Bala, et par conséquent, elle ne sera pas interdite à son mari.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Tzadeh Aleph Amud Bet. Ravina Amar, Ravina propose une autre interprétation de cette deuxième braïta. L'Inyan Korban Katane. Dans la braïta, il s'agit de savoir si cette femme devra offrir un korban khatat à cause de cette transgression ou non. Alors, c'est ainsi qu'il faut... Le Bach ajoute ici qu'il faut dire vers Rikama, c'est ainsi qu'il faudra interpréter les mots de la Braïta. Alors Rabbi Shimon dit, Asu Beddin Beratan, on considère la décision du tribunal qui a permis à cette femme de se marier à la suite du témoignage d'un témoin, Kezadon Ishbeisha, comme un homme qui aurait une relation avec une femme mariée volontairement, Velomatia Korban, elle ne devra pas offrir de Korban. Nous soulignons ici qu'en fait, nous ne voulons pas dire ici que nous considérons que cette femme a une relation interdite volontairement, mais c'est plutôt pour la comparaison. Mais en fait, la raison pour laquelle cette femme ne devra pas offrir de korban, c'est que Rabbi Shimon pense qu'une personne qui transgresse une interdiction à la suite d'une décision d'un tribunal, il ne devra pas offrir de korban. Al-Piedim, nous considérons cette femme qui s'est mariée à la suite du témoignage de deux témoins, Keshgagat Ishbeisha, comme un homme qui aurait une relation avec une femme mariée involontairement, ou Matia Korban, et par conséquent, il devra offrir un Korban. Veibaitema, si tu trouves à redire sur ses réponses, je t'en dirai une autre. Hakamaita Rabanani, toujours pourrais-je te dire que l'auteur de la première Baïta sont effectivement les Chachamim qui discutent avec Rabbi Shimon, et qui disent qu'en fait, cette femme qui s'est mariée soit à la suite du témoignage d'un témoin, soit si elle s'est mariée à la suite du mariage de deux témoins, elle sera interdite à son mari. Elle aura aussi besoin d'un acte de divorce. Betarit Sachis, c'est ainsi qu'il faudra interpréter les mots de la première braïta. Alors, le début de la braïta a été que toutes celles qui sont interdites, dont la relation est sanctionnée par la peine de karet, si elle a reçu des kiddushim de celle-ci, donc elle s'est mariée avec lui, elle n'aura pas besoin d'acte de divorce pour se remarier. Alors, la suite de la braïta, il faudra interpréter comme ça. Chutz mi eshetish vechenisset al pi bedin. À part la femme mariée, nous comprenons ici la femme qui était mariée, qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre à la suite du témoignage de deux témoins, Veshenisset al Pibedim, et celle qui s'est mariée à la suite d'une décision du tribunal, donc celle qui s'est mariée à la suite du témoignage d'un témoin. Donc en fait, nous voyons aussi dans cette braïta, selon cette interprétation, que dans les deux cas, elle aura besoin d'un acte de divorce, elle sera aussi interdite à son mari. La Gemara demande, Metiv Oula. Oula a posé la question suivante, Miam Rinan, Maï Havela le Mebad, est-ce qu'on utilise le principe qui a été cité plus haut, comme quoi on dirait, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Et à ce moment-là, nous dirons que c'est un cas de force majeure et elle ne sera pas interdite à son mari. Ve'atnan, voici qu'il a été enseigné dans une Mishnah, dans Maseret Gittin d'Afaintet Amudbet. Il s'agit ici de la date qui doit être apposée sur les actes de divorce. À l'époque, les années étaient comptées en fonction du règne du roi de l'époque. Les Chachamim ont institué qu'il fallait impérativement utiliser la date en fonction des années du règne du roi de l'époque, de l'endroit où était écrit l'acte de divorce. Dans la Mishnah dit, Katav l'shem malchut shena ogenet. Si, pour dater l'acte de divorce, il a employé les années en fonction d'un royaume impropre. La Gemara dans Gittin explique qu'il s'agit du royaume de Rome, qui n'a ni écriture et ni langage à lui-même, alors qu'il était dans le pays de Babel. Ou bien l'Eshem Malchut Madai, ou bien il a employé les années en fonction du règne du royaume de Madai, l'Eshem Malchut Yabam. Ou bien s'il a compté les années en fonction des années du royaume grec. Ou bien le Binyan Habayit, ou bien il a compté les années en fonction des années à partir de la construction du Beit HaMikdash. Ou bien le Khurban Habayit, ou bien il a compté les années à partir de la destruction du Beit HaMikdash. Ou bien, Haya Bamizrach ve Katav Maharav, s'il était à l'est d'un certain endroit quand il écrivait cet acte de divorce, et le scribe a écrit dans cet acte de divorce qu'il était à l'ouest. Ou bien, Bemaharav ve Katav Mizrach, ou bien s'il était à l'ouest d'un certain endroit, et le scribe a écrit dans l'acte de divorce qu'il était à l'est. Dans tous ces cas, l'acte de divorce n'est pas bon. Si cette femme a utilisé cet acte de divorce pour se marier, tetsé misé ou misé, elle devra quitter ses deux maris, c'est-à-dire le second et le premier, et toutes les pénalités qui ont été enseignées dans notre Mishnah au début du Pérec s'appliqueront aussi pour cette femme. Là-dessus, Oula a demandé, et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Les mamai avaient la même balle. On n'a qu'à dire, qu'est-ce que cette femme aurait pu faire? En effet, elle n'était pas censée savoir que cet acte de divorce n'était pas bon. Nous voyons donc de là que même dans un cas pareil, nous pénalisons la femme. Nous dirons donc aussi que les Chachamim discutent avec Rabbi Shimon et diront que même dans le cas où la femme s'est mariée à la suite d'un témoignage de deux témoins, elle sera interdite sur son premier mari. La Gemara répond, en fait ce n'est pas une preuve, parce que Ibaela l'écrou l'Egita. Elle aurait dû lire cet acte de divorce et ainsi elle aurait pu découvrir que cet acte de divorce n'est pas bon. Amar Rav Shimi Barashi, Tashma, viens écouter une preuve de la suite de la Mishnah que nous venons de citer. Hakones et Yebimto, celui qui se marie avec une des candidates au Yiboum, Valchatsarata Veniset, et sa rivale est partie se marier, parce qu'en fait, à la suite du Yiboum, de la première candidate au Yiboum, sa rivale est exemptée du Yiboum, comme nous l'avons expliqué tout au long de la Masechet. Venimtset Zoalonit, il s'est trouvé par la suite que le candidat au Yiboum qui a fait l'Yiboum était stérile. Elle avait ce défaut congénital qui faisait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous avons vu plus au début de la Maseret, la Fudbet, que la femme, la Aïlonite, qui est une femme stérile, n'est pas concernée par le Yiboum. Finalement donc, sa rivale qui s'est mariée était en fait une candidate au Yiboum qui n'a pas été exemptée du Yiboum. Alors, Mishnah dit à ce sujet, Tetsé, misé ou misé, elle devra quitter les deux maris, c'est-à-dire son second mari, et aussi elle ne pourra pas se marier avec le Yabam, elle devra faire impérativement la Khalitza, Vechola Drachima Eluba, et toutes les pénalités qui ont été enseignées dans notre Mishnah s'appliqueront aussi dans ce cas. Cette partie de la Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit que toutes les femmes, même si elles sont interdites par un commandement négatif, par exemple le fait qu'une candidate de Oiboum se marie avec quelqu'un qui n'est pas son Yabam, est considéré comme les femmes dont les relations sont sanctionnées par la peine de karet. Finalement, donc, nous considérons cette femme comme une une femme mariée qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi, donc, elle sera interdite sur le Yabam. En tout cas, la question se pose ici, pourquoi est-ce que nous disons cela? On n'a qu'à dire, finalement, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Nous voyons donc ici que même dans ce cas, nous pénalisons la femme. L'agma répond, ce n'est pas une preuve, parce que Ibaela, l'imtune, elle aurait dû attendre. En effet, comme l'explique le Ritva, cette femme qui a ce défaut congénital, cette aïlonite, peut-être, même s'il n'avait pas tous les signes, au moment où elle est devenue candidate au Iboum, mais elle en avait sûrement une partie. On aurait dû donc attendre pour vérifier si effectivement c'est une femme normale ou bien elle est aïlonite. Si elle n'a pas attendu, donc il y a une raison de la pénaliser. Amar Abaye, Tashma, bien écoute une autre preuve de la suite de cette Mishnah. Kol arayot shamru potrot tarotzen. Toutes les incestes à propos desquelles nous avons dit au début de la Maseret qu'elles dispensent leur rival de la mitzvah de Iboum. C'est-à-dire non seulement elles sont dispensées du Iboum, mais leur rival aussi. Halchut tsarot venisou. Maintenant, si ces rivales sont parties et elles se sont mariées, venim tseru elu aelonit. Il s'est trouvé que les incestes étaient elles-mêmes stériles. Puisqu'elles étaient stériles, alors que le mari ne le savait pas au moment du mariage, le mariage précédent a été annulé. Finalement, donc, nous disons que les incestes n'étaient pas mariés avec leur premier mari, et donc leurs rivales sont à présent concernées par le Iboum. Si elles se sont mariées, donc, et avec quelqu'un d'autre, alors qu'elles étaient concernées par le Iboum, elles ont transgressé une interdiction. Là-dessus aussi, nous disons, tetsé, misé ou misé, cette rivale, donc, devra quitter les deux maris, c'est-à-dire le second mari et le Yabam. Elle ne pourra pas faire le Iboum, elle pourra faire que la Khalitza, b'chola d'rachima ilouba, et toutes les pénalités que nous avons enseignées dans notre Mishnah s'appliqueront ici dans ce cas. Là aussi, cette Mishnah va selon l'avis de Rabbi Akiva. En tout cas, la Gemara demande à Maï pourquoi est-ce que nous disons cela, Nema Maï Abel Alameva. On n'a qu'à dire qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Elle n'était pas censée savoir que sa rivale était stérile. La Gemara répond, là aussi, ce n'est pas une preuve, parce que Ibaela l'amtune, elle aurait dû attendre et voir si elle est stérile ou non. Amar Rava, Tashma, viens écoute une autre preuve de la suite de cette Mishnah. Katab sofer get leish veshovar leisha. Si le scribe a écrit un acte de divorce pour l'homme, qu'il donnera par la suite à sa femme, et un reçu à la femme, qu'elle donnera par la suite au mari quand il payera l'aktuva. Veta'a, et le scribe s'est trompé, venatan get leisha veshovar leish. Et il a transmis l'acte de divorce à la femme et le reçu à l'homme. Aucun des deux ne s'est rendu compte de cela. Venatnu zelezé et ils ont vezelezé, c'est-à-dire ils ont échangé leurs documents. Le mari a donné à la femme le reçu qu'il pensait être l'acte de divorce et la femme a donné au mari l'acte de divorce qu'elle pensait être le reçu. Ula charzman hare get yotse mitachat yedei haish veshovar mitachat yedei haisha. Et après un certain temps, il a été découvert que le mari tient en main l'acte de divorce qui lui a été donné par la femme, et la femme tient le reçu qu'elle a reçu de son mari. Donc finalement, elle n'a jamais été divorcée. Si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre entre-temps, tetsé, misé ou misé, elle devra quitter ses deux maris, b'chola d'rachima ilouba, et toutes les pénalités qui ont été assignées dans notre Mishnah s'appliqueront ici dans ce cas. La Gemara demande à Maï, pourquoi est-ce que nous disons cela? On n'a qu'à dire, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Finalement, elle n'était pas censée savoir qu'elle n'a pas reçu un acte de divorce de la main de son mari. Agma répond, là aussi ce n'est pas une preuve. Iba elle a la courrier le guitar, elle aurait dû lire son acte de divorce, elle aurait dû lire le document, elle aurait pu découvrir qu'il ne s'agissait pas d'un acte de divorce. Amaravashi, Tashma, bien écoute une preuve de la suite de la même Mishnah. Shina, Shema ou Shema. Si le scribe a changé le nom du mari ou le nom de la femme dans l'acte de divorce, ou bien Shemiro ve Shemira, ou bien s'il a changé le nom de la ville du mari ou le nom de la ville où était la femme. Là aussi, cet acte de divorce n'est pas valable. Si elle s'est mariée avec cet acte de divorce, c'est misé ou misé, elle devra quitter ses deux maris, le premier et le second. Et toutes les pénalités qui ont été enseignées dans notre Mishnah s'appliqueront ici dans ce cas. La Gemara demande à Amai, et pourquoi? On n'a qu'à dire qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Elle n'était pas censée savoir qu'il s'agissait d'un acte de divorce qui n'est pas valable. La Gemara répond, là aussi, ce n'est pas une preuve. Ibala, l'écro, l'égita. Elle aurait dû lire l'acte de divorce, elle aurait pu découvrir qu'il s'agissait d'un acte de divorce qui n'est pas valable. Nous avons fini le shiur de Evamot d'Av Tzadi Aleph. C'est un acte de divorce. Commençons le shiur de Yevamot Dav Tzadeh Bet. Nous commençons Dav Tzadeh Aleph Amud Bet à la 9e ligne du bas de la page. Nous avons vu jusqu'à présent que la Mishnah avait enseigné la vie de Rabbi Shimon que si une femme s'était mariée à la suite du témoignage de deux témoins et puis son mari est revenu, nous considérons ce cas comme un cas de force majeure parce qu'en fait elle n'avait rien à faire et donc elle pourra retourner à son mari. La Gemara pensait que les Chachamim étaient en désaccord avec l'avis de Rabbi Shimon et pensaient que même dans ce cas où elle n'avait rien à faire, elle sera quand même pénalisée, elle n'aura pas le droit de retourner à son mari. Alors justement, ce que la Gemara essaie de prouver, qu'effectivement, il existe cet avis qui discute avec Rabbi Shimon. Amar Ravina. Ravina dit, Tashma vient écouter une preuve d'une Mishnah dans Gittin Daf Pe Alef Amud Bet. Il s'agit ici de ce qu'on appelle le Get Mekushar, c'est l'acte de divorce lié. Dans le 10e Perek de Bahavatra, il est expliqué que puisque les Kohanim ne peuvent pas se marier avec une femme divorcée, les Chachamim ont alourdi la procédure de l'écriture de l'acte de divorce pour le Kohen. Ils ont dit que quand on écrit l'acte de divorce pour le Kohen, à bout de chaque ligne, cet acte de divorce sera plié et cousu, et des témoins devront signer à l'extérieur de cette pliure, donc sur le revers de cet acte de divorce. Maintenant, s'il manque des témoins, c'est-à-dire qu'il y a plus de pliures que de témoins qui ont signé, cet acte de divorce n'est pas valable. Alors là-dessus, la Mishnah dit, « Kansa beget kereach » si une personne s'est mariée avec une femme qui a eu un divorce, dont l'acte de divorce était chauve, c'est-à-dire où il manquait des signatures, il s'agissait d'un acte de divorce qu'on appelle l'acte de divorce plié, où il n'y avait pas de témoins sur tous les plis, Tetse, misé ou misé, elle devra quitter ses deux maris, etc. C'est-à-dire, toutes les pénalités qui ont été enseignées dans notre mission au début du Pérec s'appliqueront ici dans ce cas. Là-dessus, la Gemara demande pourquoi est-ce qu'on pénalise cette femme finalement? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle n'était pas censée savoir qu'il s'agissait d'un acte de divorce qui n'est pas valable. La Gemara répond, ce n'est pas une preuve. Iba est là, Léa Koué et Léguita, elle aurait dû lire cet acte de divorce, elle aurait pu découvrir qu'il s'agissait d'un acte de divorce qui n'est pas valable. Rav Papa savar le mevad uvda vemay havelea le mevad. Rav Papa pensait trancher une halakha dans le cas d'une femme qui n'avait rien à faire. Il voulait la permettre. Il s'agissait d'un cas d'une femme qui s'était mariée à la suite du témoignage de deux témoins, puis son mari est revenu. Rav Papa voulut la permettre à son premier mari, comme nous l'a enseigné notre Mishnah. Amar le Ravuna bered Rav Yoshua le Rav Papa. Voici que nous avons enseigné toutes ces Mishnayot où nous voyons que même si la femme n'avait rien à faire, quand même, elle est pénalisée. Alors finalement, comment est-ce que tu peux fixer l'alakha comme Rabbi Shimon? Amarle, Rav Papa a répondu Rav Huna Bered Rav Yoshua, Velav Shaninu, est-ce qu'on n'a pas répondu toutes ces preuves de dire finalement il n'y a pas de preuve qu'il y a un avis qui discute avec Rabbi Shimon? Amarle, Rav Huna Bered Rav Yoshua a répondu à Rav Papa, Vashinuye Lekou Velismour, est-ce qu'on va s'appuyer sur les réponses qu'a donné la Gemara pour dire qu'en fait il n'y a pas d'avis qui discute avec Rabbi Shimon, en fait on devrait interdire cette femme. Ou Passac, et Rav Papa s'est abstenu de permettre cette femme. Amar Ravashi. Ravashi dit, dans le cas d'une femme qui s'est mariée avec la permission du tribunal, c'est-à-dire à la suite du témoignage d'un seul témoin, ou le Kala lo chayshinan, et à un bruit qui court que le mari est encore vivant, nous ne craindrons pas. C'est-à-dire, tant que ne viennent pas des témoins qui nous disent que le mari est encore vivant, on ne séparera pas cette femme de son second mari. La Gemara demande, « Hey Kala, de quel bruit s'agit-il? Quand est-ce que ce bruit est arrivé? » « Il est ma Kala de Batarne Suin. » S'il s'agit d'un bruit qui arrive après le mariage, « Hamra Ravashi Chadazimna » Voici que Ravashi l'a déjà dit par ailleurs, « Dama Ravashi » parce que Ravashi a dit,
nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.